Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue aussi à ceux qui sont à la maison avec nous dans les autres salles en haut. Donc, vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Dominique et vous allez pardonner la barbe des séries que j'essaie de me faire pousser. Mais c'est ça, moi c'est long, fait que... OK. Donc, ce matin, on va continuer notre série de discours dans le livre des Actes, notre série « Envoyé », où on est témoin de la naissance de l'Église, une naissance miraculeuse, et on voit comment cette Église-là a pris forme, et on s'imagine aussi comment elle a pu se rendre jusqu'à nous aujourd'hui, qui formons encore l'Église. Il y a quelques années, pendant notre voyage annuel de « J'aime mon voisin », Jibek Ado, vous avez entendu différents noms, mais pendant notre voyage annuel avec les adolescents, en fait, on passait une semaine dans une autre ville du Québec, puis une semaine ici à Gatineau, et il y a eu une discussion intéressante que j'ai eue avec un de nos ados qui me disait à l'époque, il dit « C'était vraiment bon pour moi cette année de faire « J'aime mon voisin », De pouvoir, qu'est-ce qu'on faisait avec J'aime mon voisin, en fait, c'est qu'on allait dans la communauté, puis on aidait les gens qui étaient dans le besoin, on aidait des gens de notre église à rentrer en connexion, en communauté avec leurs voisins. On aidait les gens, soit à couper du gazon, laver des fenêtres, faire de la peinture, toutes sortes de besoins qu'on faisait. Puis avec ce temps-là, avec les jeunes, on leur enseignait à vivre selon leur identité en Jésus. Comme, qu'est-ce que ça change d'être chrétien? Qu'est-ce que ça fait d'être un enfant de Dieu? Et pendant la semaine, on avait des études bibliques, on formait les jeunes et l'après-midi, le soir, on allait sur le terrain puis on aimait tout simplement les gens de la communauté. Et je me souviens toujours d'une petite discussion que j'ai eue avec un des jeunes à un moment donné qui a grandi dans l'Église, qui est encore ici parmi nous, puis qui me disait à un moment donné, il dit, quand j'ai fait, en faisant ce mouvement jeunesse, j'aime mon voisin, il dit, j'ai vraiment appris que je pouvais aider les gens autour de moi. Que je pouvais être une bénédiction pour les gens autour de moi. J'ai appris comment je pouvais rentrer en contact avec mes voisins, avec mes amis à l'école, avec des gens dans la communauté. Et souvent, on s'en rend pas compte et c'est tellement une bénédiction. Moi-même, j'ai grandi dans l'Église. J'avais 3 ans quand mes parents sont venus à l'Église la première fois. Et j'ai grandi à l'Église depuis ce temps-là. Et c'est tellement une bénédiction d'être une famille, de pouvoir connaître tellement de gens, de pouvoir connecter les uns avec les autres. Et bien souvent, plus tard, je me suis rendu compte que j'avais comme ma famille, mes amis, mon Église. Mais c'était plus difficile pour moi de connecter avec les gens à l'extérieur de cette bulle familiale-là, si on veut, qui était l'Église. Et j'avais vraiment été marqué par ce jeune homme qui disait, « Hey, là maintenant, j'ai goûté, je sais que je peux venir en aide aux gens autour de moi. Je peux faire du bien autour de moi. » Une question qu'on peut se poser parfois, c'est, est-ce qu'on doit mettre en opposition faire du bien aux autres? Aller aider notre prochain, on a entendu tellement parler dans les dernières semaines des opportunités d'entraide qu'on veut faire dans la communauté. Est-ce qu'on doit mettre en opposition, faire du bien aux autres avec partager notre foi, partager l'Évangile? En d'autres mots, est-ce que ça doit toujours être un ou l'autre? Ou on ne peut pas faire un sans l'autre? Ou l'Église devrait simplement se concentrer sur un, mais l'autre laisser ça aux autres? Souvent des questions, des discussions qu'on a les uns avec les autres, que peut-être que vous avez eues autour d'une table ou en discutant avec des amis ou des réflexions que vous avez eues au courant des années. Mais on voit que l'Église primitive, la première Église, a dû, en quelque sorte, faire face à cette question-là, peut-être de façon différente que nous, on peut en parler, mais elle a dû, en quelque sorte, faire face à cette question-là, et la réaction qu'ils ont eue, la manière dont ils ont géré ce problème-là, nous enseigne beaucoup sur l'importance de partager notre foi, de partager la parole de Dieu, de partager l'Évangile, mais aussi de prendre soin des autres et de faire du bien autour de nous. Donc, si vous êtes avec nous depuis le début de la série, vous savez que l'Église, dès le début, a vécu des problèmes de persécution. On a vu qu'ils ont été faussement arrêtés, faussement accusés. On les a frappés. Il y a eu des problèmes aussi au niveau de l'intégrité de certaines personnes, de certaines personnes dans l'Église qui étaient hypocrites, qui ont été jugées pour ça. Mais là, il y a comme un autre problème qui va être généré, qui vient de l'intérieur. Et on va lire ça ensemble ce matin. Et vraiment, dès le début de l'Église, il y avait cette possibilité-là que l'Église se divise, que l'Église se divise en groupes et que même dès le début, on aurait pu voir une Église se détruire de l'intérieur. Mais grâce à Dieu, on va voir que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et au contraire, l'Église a agi de façon glorieuse à cette époque-là et on peut vraiment apprendre de ce que la parole de Dieu nous enseigne ce matin. Donc, je vais juste prier et ensuite, on va aller lire ensemble dans Actes 6 ce récit. Seigneur Jésus, merci pour le temps qu'on passe ensemble ce matin. Merci pour la parole que tu nous donnes. Merci parce que tu nous encourages à chaque jour. On peut te connaître, on peut être proche de toi et on peut te faire connaître, partager ton nom aux autres. Et merci pour ton amour dans nos vies. Et je te prie ce matin qu'on puisse laisser les distractions de côté, qu'on puisse laisser notre état d'esprit peut-être tourmenté, peut-être troublé, peut-être qu'on vit de la souffrance. Il y a toutes sortes de situations qui nous amènent ici ce matin. Et je te prie que tu puisses nous faire la grâce d'être attentif à ta parole et d'être nourri et d'être encouragé par ce que ta parole a nous enseigné ce matin. C'est dans ton nom qu'on veut te prier, Jésus. Amen. Donc, lisons ensemble Actes 6, les 7 premiers versets. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'assemblée des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'Esprit-Saint et de sagesse. Et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule des prêtres obéissait à la foi. Donc, si vous vous souvenez, on est au début du livre des Actes, au début, et Jésus demande à ses disciples de rester à Jérusalem, d'attendre qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et l'Église, jusqu'au chapitre 6, jusqu'à ce moment-là, elle est concentrée principalement à Jérusalem, et elle est composée principalement de Juifs qui se sont convertis au christianisme. Et là, il y a un premier problème interne qui arrive, et l'Église grandit en nombre. Donc, depuis le début, ça fonctionnait bien. Comme les gens, ils étaient généreux les uns envers les autres. Certains vendaient leurs champs pour que les plus démunis puissent avoir à manger, pour qu'on puisse prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Tout fonctionnait bien. Mais là, l'Église grandit en nombre. Il y a de plus en plus de personnes. Probablement, on ne sait pas exactement combien, mais on pense qu'à cette époque-là, il y avait plusieurs milliers de chrétiens déjà juste à Jérusalem. Il y en a qui avancent même un chiffre qui dit que jusqu'à 25% de Jérusalem étaient convertis au christianisme, principalement des Juifs à cette époque-là. Donc, il y a des groupes qui se forment à l'Église. Il y a des Juifs qui viennent de Jérusalem, qui sont les Hébreux, puis il y en a qui viennent d'un peu partout, qui étaient dispersés, qui reviennent à Jérusalem, qui viennent lors des fêtes, des fois qui vont rester plus longtemps pour participer à la vie de l'Église. Et l'Église grandit, et il y a des groupes qui se forment dans l'Église. Et ici, on voit les Hébreux et les Hellénistes. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a réellement un problème dans l'Église. L'Église primitive avait une... Les gens de l'extérieur voyaient l'Église Et on pouvait dire que leur réputation, c'est le mot que je cherchais, c'était de prendre soin des opprimés, de prendre soin des veuves, de nourrir ceux qui avaient faim. Et il y avait vraiment cette réputation-là. En fait, l'Église primitive mesurait sa compassion par la façon dont elle prenait soin des pauvres, des orphelins et des veuves. Donc, quand le problème est apporté qu'il y a certaines veuves qui sont négligées, c'était vraiment un problème qui était grave pour l'Église. C'était important pour tout le monde parce que c'était le caractère et la crédibilité de l'Église qui étaient mis à l'épreuve ici, qui étaient mis au test. L'Église était populaire pour prendre soin de ces personnes-là. On a même des records de personnes qui décidaient de jeûner pour pouvoir avoir moins de nourriture, pour pouvoir nourrir ceux qui n'en avaient pas. On a vu que les riches vendaient leur terrain pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir nourrir ces personnes-là. L'Église était responsable des veuves, des orphelins, comme si c'était leur propre famille. On prenait soin d'eux. L'Église était déterminée et engagée à prendre soin des plus démunis et de les traiter comme des membres faisant partie de leur propre famille. Donc, c'est pas... Il y avait réellement un problème, il y avait réellement quelque chose qui avait besoin d'être adressé. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'avant d'adresser ce problème-là et de voir comment les apôtres ont adressé ce problème-là avec le reste de l'Église, on voit au verset 1 que la manière que les hellénistes ont adressé le problème, c'était par des murmures. Ils murmurèrent contre les Hébreux. Il y avait vraiment comme, tu sais, les gens voyaient une injustice, ils voyaient qu'il y avait un problème, on prenait vraiment soin du groupe. Peut-être comme les gens que ça faisait plus longtemps qu'ils étaient à l'Église, peut-être que c'était ceux que les apôtres connaissaient plus, on ne sait pas, c'était... Comme, on pense même pas que c'était volontaire. En fait, on pense que c'était simplement un problème de gestion dû au fait que l'Église grandissait, puis on n'a pas vu que la manière qu'on fonctionnait au début ne fonctionnait plus maintenant qu'on était plus de personnes. Mais les gens qui voient le problème murmurent. Peut-être qu'ils parlaient comme dans le dos des autres, peut-être qu'ils parlaient comme... Ils démontraient un manque de confiance envers les leaders, ils critiquaient le leadership des apôtres, ils murmuraient contre ce manque, le fait que leur veuve n'était pas pris soin. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ici, on est vraiment dans ce narratif où l'Église est en train d'augmenter en nombre. Il y a de la persécution, l'Église continue de grandir. Il y a des gens qui essayent de profiter de l'Église, l'Église continue de grandir. Et maintenant, il y a une situation interne qui peut créer des conflits, qui peut créer de la division, qui peut créer une dissension envers le leadership de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer à ce point-ci? Il y avait une insatisfaction. Probablement qu'on portait des mauvaises intentions aux leaders puis à ceux qui prenaient mal soin des veuves. Il y avait ce manque de confiance qui commençait probablement à s'installer à ce moment-là. Et c'est vraiment important de prendre le temps pour s'arrêter ici quelques instants. Comme j'ai dit, on va regarder comment est-ce qu'ils ont adressé le problème. Mais on est une famille, Église de Sentier, puis on est plein de personnes avec plein d'opinions, des points de vue différents. Parfois, on voit des choses qui se passent peut-être le dimanche matin, qui se passent dans la vie de l'Église. Et c'est facile de regarder des fois de l'extérieur et de regarder un groupe, de regarder des gens, de regarder le leadership et de se faire des idées. On est bon, puis moi, je suis le premier à être bon pour pouvoir se faire des idées dans ces moments-là. Mais il y a deux conseils que j'ai entendus qui m'aident vraiment dans ces moments-là. À ne pas aller trop loin à parler dans le dos d'une personne ou à porter des mauvaises intentions à quelqu'un ou à juger la décision d'une personne comme si j'avais toutes les faits et que j'avais 100% raison. Deux conseils. Autant que tu peux, le premier, c'est donne le bénéfice du doute aux personnes. Autant que tu peux. Ça, c'est comme une disposition de cœur. Des fois, on va entendre une histoire, on va entendre quelque chose qui se passe, on veut faire quelque chose, on a un projet, Et là, ça c'est vrai à l'église, ça peut être vrai dans nos familles, ça peut être vrai dans nos milieux de travail. On reçoit un email du patron, puis là, on n'est pas capable de lire ses intentions, mais on se les invente ou on se les crée dans notre tête. Quand tu pars du fait que, hey, je vais donner le bénéfice du doute à la personne, c'est bon aussi dans les conflits, dans le mariage. Quand on reçoit quelque chose, puis on le reçoit mal, moi, ça m'arrive de dire, hey, ma femme m'a dit quelque chose, puis là, en ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'elle veut me faire du mal ou elle veut me faire payer quelque chose que j'ai fait il y a quelques jours ou elle dit ça pour... Puis si je m'arrête à juste cette pensée-là, ma femme veut me faire du mal, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens parce que je le sais que à la base... ma femme m'aime, ma femme veut mon bien, ma femme désire qu'on puisse grandir ensemble dans notre foi, qu'on puisse bâtir notre foyer ensemble sainement. Ça, c'est ce qui est vrai. Alors, c'est une disposition de cœur. Donne le bénéfice du doute quand tu peux. Va, ne pars pas avec la présupposition que la personne veut faire du mal ou que la personne est mal intentionnée. Le deuxième conseil que j'ai entendu, c'est que quand tu as un problème, va voir la personne contre qui tu as un problème. Justement, si on part avec, OK, je ne vais pas soupçonner le mal chez cette personne-là, je vais aller voir, je vais lui poser des questions, je vais lui partager mon malaise, je vais lui partager ce que je pense être un désaccord en ce moment, je vais aller lui partager un problème que je vois. Bien souvent, quand on fait ça, on se rend compte que il nous manquait du contexte. On ne comprenait pas les intentions de la personne. Et même parfois, et souvent, je me rends compte dans ces moments-là que, hey, je me suis trompé. Puis si tu as raison, puis qu'il y avait vraiment un problème, puis qu'il y avait vraiment quelque chose à adresser, mais peut-être que la personne ne le voyait même pas. Puis s'il y a vraiment un problème, bien, dans ces moments-là, on peut faire partie de la solution plutôt que de pointer vers le problème. Et c'est ce qui fait de nous une famille. Du fait qu'on est ensemble, dans le même bateau, à ramer ensemble dans la même direction. Et si on voit quelque chose, on peut adresser avec les membres de la famille quelque chose qui se passe. Et ça, c'est un principe qui est vrai dans nos familles biologiques, qui est vrai dans notre travail, dans nos relations. Si on a un problème, on peut faire partie de la solution. Et c'est vraiment intéressant parce que ici, le problème qui est adressé, c'est un groupe minoritaire dans l'Église qui dit, hey, nos veuves, on n'en prend pas soin. Ces veuves-là, on n'en prend pas soin. Et la réaction des apôtres, la réaction de toute l'Église est vraiment incroyable. Ils n'ont pas commencé à dire, ouais, mais là, on fait de notre mieux, on fait ce qu'on peut. Ils n'ont pas commencé à dire, hey, on est quand même 70% sacoche, on a juste oublié le 30%. Ils n'ont pas commencé à se justifier. En tout cas, la Bible ne nous révèle pas que les apôtres se sont justifiés. Au contraire, parce que comme on a vu au début, pour l'Église, c'était primordial qu'ils étaient reconnus pour prendre soin des plus démunis. Ce n'était pas une question pour eux. Alors, si quelqu'un arrivait et disait, hey, on ne prend pas soin des plus démunis en ce moment parmi nous, mais c'était un problème et on devait l'adresser. Les apôtres ont reconnu le problème et ils vont l'adresser sur le champ. On peut le lire au verset 2 à 4. Les 12 convoquèrent l'assemblée des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes à qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit-Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. C'est vraiment intéressant parce que les apôtres réalisent que là, OK, l'Église grandit, il y a des gens qui sont négligés, il faut qu'on agisse. Mais notre ministère premier à nous, les apôtres, c'est de prêcher la parole. C'est de vous enseigner la parole de Dieu, de proclamer l'Évangile. On ne peut pas délaisser ça. Et ici, les apôtres ne sont pas en train de dire, ça, c'est pas comme nous, on est meilleur que, on est plus important que de juste servir les gens. C'est pas comme, ils ne sont pas en train de faire une échelle de valeur ici. Ils sont en train de faire une échelle de priorité pour leur ministère. La preuve, c'est qu'ils vont nommer 7 hommes qui sont bien capables aussi d'enseigner la parole de Dieu, qui sont bien capables d'enseigner le peuple, mais 7 hommes qui vont contribuer à régler le problème qui est présenté devant eux. Les apôtres sont en train de dire, « Hey, c'est vrai, on a un problème, mais on peut pas le régler nous-mêmes. On peut pas prendre soin de l'Église juste à nous seuls. » Mais ce qui est vraiment important, ce qui est notre appel et notre ministère, c'est de vous enseigner la parole de Dieu, c'est de s'assurer de la proclamation de l'Évangile et de nous adonner au ministère de la prière. L'Église grandit, on doit faire les choses différemment, mais on doit s'assurer qu'on ne délaisse pas l'enseignement de la parole de Dieu, la proclamation de l'Évangile. L'Évangile, c'est la raison pour laquelle l'Église grandit. On voit que l'Église avait une bonne réputation, que l'Église prenait soin des plus démunis, que l'Église était impliquée dans sa communauté, mais c'était l'Évangile qui transformait des vies. En fait, c'était l'Évangile qui faisait en sorte que les gens deviennent aussi généreux, aussi désintéressés de leur propre vie, puis intéressés à prendre soin des autres. C'est l'Évangile qui transforme des vies. Et quand on regarde, parfois on va dire, il y a plein d'autres mondes qui vont aider dans la communauté, on n'a pas besoin de faire ça. Je posais la question tantôt en introduction, est-ce que ça doit être un ou l'autre? L'Évangile de Jésus-Christ nous rend plus généreux. Elle nous donne un amour pour les autres. Elle nous donne un sens différent de la justice qui grandit en nous constamment. Et l'Église était reconnue comme une Église qui était impliquée dans sa communauté, la communauté interne de l'Église, mais aussi dans sa communauté, dans sa ville, à cause de ce que Jésus avait fait. L'Église, c'est le seul organisme de la ville de Gatineau qui peut présenter l'Évangile puis l'espoir de Jésus-Christ. On a besoin de continuer et ne jamais cesser de prêcher la parole, de prêcher la parole de Dieu. Et Dieu appelle des personnes à l'enseignement. Dieu appelle des personnes à ce ministère d'enseigner son peuple, d'enseigner la parole et d'équiper les gens à pouvoir partager l'Évangile et pouvoir à leur tour faire des disciples qui vont enseigner la parole. Mais ce que les apôtres font, c'est que dans le fond, ils nous donnent une leçon de leadership vraiment incroyable ici. Parce que les apôtres sont en train de dire « Tout ne repose pas sur nos épaules ». On est une église, on est une famille. C'est à chacun d'entre nous, à toute l'église, de régler ce problème-là et de s'engager les uns envers les autres et envers notre communauté. On a besoin de la contribution de toute l'église pour être une église engagée et fondée dans la parole de Dieu. Ici même, à l'église Le Sentier, on a ce désir, ce rêve de saturer notre ville de l'Évangile en parole et en action. On veut faire rayonner l'amour de Jésus dans notre communauté. Et il y a toutes sortes de besoins, toutes sortes de possibilités. Et si on veut être une église qui partage la parole et qui aime les gens à l'intérieur de son église et qui aime les gens dans le besoin dans sa ville, on a besoin de s'engager les uns envers les autres et de dire, c'est à chacun d'entre nous de prendre part à cette mission que Dieu nous donne, à ce désir, à ce rêve que Dieu nous donne. Tantôt, vous avez vu dans les annonces le besoin pour... On a différents besoins. Le Sentier Aide qui veut aider dans la communauté. On a répertorié 30 à 40 possibilités d'implication dans la communauté qui peuvent être comme mises en œuvre maintenant. Puis il y a quelques semaines, on a eu une discussion avec certains membres de l'Église qui sont venus comme partager leurs idées, qui sont venus partager comment on pouvait aider la communauté, comment on pouvait s'impliquer dans la communauté. Puis il y a plein d'idées qui sont sorties. Et on peut contribuer et servir ensemble. On a un ministère pour enfants ici, ce désir de servir nos enfants, la zone enfant, de former ce désir de connaître Jésus et d'aimer Jésus chez nos enfants. Et on est une famille, la semaine passée, à la fête des Pères, on a prié pour ces familles qui voulaient s'engager à élever leurs enfants dans la parole de Dieu et qui demandaient à l'Église de les accompagner dans ce travail-là qu'ils avaient à faire. Et En septembre, on veut réouvrir la zone enfant comme on l'a eu pendant plusieurs années et on aura besoin de plusieurs d'entre vous, d'entre nous, qui vont s'engager à enseigner nos enfants pour que nos enfants puissent aimer et connaître Jésus. Cette semaine, on a fini la jeunesse. C'était plus de 20 leaders qui se sont impliqués pendant toute l'année, malgré la pandémie, qui se sont impliqués à faire des appels Zoom, qui ont pris du temps avec leurs jeunes, qui s'impliquent constamment dans la vie de leurs jeunes parce qu'ils veulent avoir un impact dans la vie de ces jeunes-là. Notre église est une église qui prend soin des nouveaux arrivants qui cognent à notre porte. Plusieurs témoignages que j'ai entendus au cours des années de personnes qui sont arrivées ici qui n'avaient presque rien, puis notre église a accompagné ces familles-là à s'installer ici au Canada. On est une église qui veut prendre soin des gens. Il y a toutes sortes de besoins. On peut penser à nos groupes maison, nos groupes connexion, nos célébrations du dimanche, l'équipe technique, l'équipe de louanges qui permettent qu'on puisse adorer Dieu ensemble, mais que aussi maintenant depuis 15 mois, que la ville entière et encore plus loin puisse entendre la parole de Dieu à tous les dimanches. Toutes sortes de ministères et d'implications, des besoins qu'on a les uns envers les autres et pour notre communauté. Pour que l'Église Le Sentier soit une bonne nouvelle et partage la bonne nouvelle de Jésus dans sa ville et dans la vie des personnes qui font partie de sa communauté, on a besoin de la participation de tous et chacun. C'est à nous ce matin de se demander, c'est quoi le temps que Dieu veut que je lui donne, l'argent que Dieu veut que je lui donne, les dons que Dieu veut que je lui donne pour contribuer à son œuvre, pour m'engager. C'est à l'Église au grand complet de participer à la vie de l'Église et à contribuer à ce rêve de saturer notre ville et d'influencer la francophonie. Puis si tu veux grandir dans ta disponibilité, tu sais, parfois on se dit, hey, j'aimerais ça servir, j'aimerais ça être disponible, j'aimerais ça pouvoir aider, je ne sais pas par où commencer. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne autour de toi que tu regardes et dis ça, c'est un modèle de don de soi. C'est quelqu'un de très généreux avec son temps, avec son argent, avec ses dons. C'est quelqu'un qui aide avec le peu qu'elle a. Je suis sûr qu'il y a des gens autour de toi qui t'inspirent. Va voir cette personne-là. Demande-lui de te parler de son implication puis comment toi tu pourrais participer à ça. Viens nous voir, ça va nous faire plaisir de t'aider à t'impliquer et à vraiment contribuer à participer à la vie de l'Église. C'est vraiment intéressant parce qu'on a ce modèle de il y a un problème dans l'Église et on adresse le problème. On adresse le problème et on dit ça prend la contribution de tout le monde. L'Église est un modèle d'unité. L'Église est un modèle de regroupement qui s'unit ensemble, qui se voit comme une famille, qui dit « OK, on a un problème, c'est peut-être inconfortable en ce moment, il y en a qui ne sont pas contents, on va adresser le problème. » Et la manière que le problème a été adressé, c'est quand même assez surprenant, mais les 7 personnes qui ont été nommées pour prendre soin des veuves, les 7 font partie de la minorité qui n'était pas pris soin. Et l'Église a accepté ça haut les mains. Ils se réjouissaient de cette décision-là parce que, dans le fond, ils étaient en train d'adresser le problème, le vrai problème qui était, en ce moment, on néglige des personnes. On est une famille, on peut se faire confiance. Ils n'ont pas comme fait une espèce de calcul de dire, on va en prendre 3 de ce groupe-là, 3 de ce groupe-là, un qui n'est pas de ce groupe-là pour être sûr qu'on soit impartial, puis... Non, ils n'ont justement pas soupçonné le mal les uns chez les autres. Au contraire, ils ont trouvé des gens qui étaient remplis de l'esprit, remplis de sagesse, qui avaient un bon témoignage et ils étaient convaincus que ces gens-là allaient prendre soin des veuves. Quel exemple d'unité qui s'unit derrière le besoin, ce besoin de contribuer à prendre soin et à partager la parole. Ce matin, j'aimerais te demander, Église de Sentier, est-ce que tu es excité de faire partie de cette Église? Est-ce que tu reconnais l'Église de Sentier comme ton Église? Puis est-ce que tu comprends que tu fais partie de la mission de Dieu? De réconcilier le monde avec lui, de partager l'amour de Jésus aux autres et de s'encourager les uns les autres, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. on est une famille appelée ensemble à saturer notre ville. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Peut-être que ce matin, tu veux te poser la question, c'est quoi ma place dans l'Église? Ça fait peut-être que tu écoutes ça ce matin puis tu te sens déconnecté parce que ça fait quelques mois que tu n'es pas venu ici ou tu n'as pas regardé régulièrement les célébrations le dimanche. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu des gens de l'Église. C'est le temps de se poser cette question ce matin. C'est quoi ta place dans l'Église? Une chose qui est certaine, c'est qu'à cause de Jésus qui a donné sa vie pour toi, à cause de Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui est mort à la croix pour nous, notre place est dans l'Église. Il y a une place pour toi dans l'Église. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et ça, on le répète, puis on le dit si souvent que ce n'est pas par tes actions, ce n'est pas par comment tu es performant ou performante, mais c'est par le sacrifice de Jésus à la croix. Ta place est dans l'Église, dans cette famille. Mais tu peux te poser cette question-là. Comment puis-je contribuer à la mission de Dieu? Comment puis-je contribuer à faire une différence, à participer à ce rêve de saturer notre ville? Je t'appelle ce matin à réfléchir à cette question, à venir nous voir, à nous écrire, à nous écrire un texto, dire hey, « j'aimerais ça contribuer, j'aimerais ça participer ». On veut t'aider à connecter puis à trouver ta place dans l'Église. J'aimerais remercier et je suis reconnaissant. Je préparais ce message et j'ai eu cette pensée qu'il y a tellement de gens généreux autour de moi dans ma vie, de gens qui aiment autour de moi dans cette Église. J'aimerais te remercier, toi qui es un leader dans l'ombre, qui fait le ménage, qui aide quelqu'un que personne ne sait que tu aides, qui donne ce que Dieu t'a, une partie de ce que Dieu t'a donné pour aimer et contribuer. La semaine passée, il y a quelques semaines, j'aidais l'équipe dans Pointe-Gatineau pour la distribution de nourriture, puis il y a une dame qui est arrivée, puis elle nous a simplement dit, « Je ne sais pas c'est quoi ici, expliquez-moi. » Et on lui a expliqué ce qui se passait, qu'on donnait de la nourriture pour les gens qui étaient dans le besoin. Et cette dame nous dit, « Ben moi, le Saint-Esprit me dit de venir ici. Je vous ai vu et je veux faire un don. Je veux donner. » Parce que vous nourrissez les gens qui sont dans le besoin. Je veux te remercier, toi, qui es un exemple d'amour, parce que peut-être que je sais que tu ne le fais pas pour avoir le spotlight puis que tu veux donner tout le spotlight à Jésus, et ça, c'est la meilleure attitude, mais je veux célébrer qu'ici, à l'Église de Sentier, il y a tellement de gens qui aiment et qui prennent soin. Il y a tellement de gens qui s'investissent dans la vie de d'autres personnes puis qui contribuent à leur croissance. On est une Église qui aime et on veut continuer, on veut pas s'arrêter là. On veut être déterminé à faire du bien et à partager l'Évangile. Et si tu te demandes comment est-ce que je peux faire ça, ben je t'invite à aller sur notre site Internet. On a une section sur notre site Internet qui s'appelle « Vivre au rythme du quotidien » qui donne des idées de comment est-ce que je peux rentrer en contact avec des gens, comment je peux bénir des gens. Comment je peux, juste peut-être dans ton voisinage, avec tes voisins, dans ton quartier, être une bénédiction pour les gens autour de nous. Remercions Dieu parce que Dieu nous appelle à l'unité, puis on voit que l'unité, elle est possible, même quand on vit des problèmes, même quand on a des divergences d'opinion, même quand on doit adresser les problèmes. Soyons encouragés parce que le Seigneur n'abandonne pas son Église et on peut être une Église active pour la gloire de Dieu, qui aime Dieu, qui aime son prochain. Soyons zélés à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Même quand que des fois ça nous fait mal, soyons zélés à aimer Dieu et à aimer notre prochain. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta présence. Seigneur, je te prie que tu puisses continuer de faire grandir un climat de confiance dans cette Église. Que malgré que parfois on peut avoir des objections, des questionnements. Peut-être que des fois, on est guetté par l'amertume ou la colère ou le doute. Seigneur, brise ces sentiments qui peuvent amener la division dans l'Église, mais bâtis l'amour qu'on a les uns pour les autres, comme tu l'as fait depuis tellement d'années ici au Sentier. Je te prie qu'on puisse être déterminés à être une Église qui fait le bien et qui prêche la parole et qu'on puisse s'unir là, ensemble, dans cette action-là, dans ce travail-là que tu nous donnes. Qu'on puisse s'aimer et s'accueillir dans nos différences, mais qu'on puisse s'unir à faire du bien et à partager l'Évangile. Et que si on n'est pas là en ce moment, mais qu'on puisse le confesser et vraiment être une église déterminée dans l'unité à faire le bien et à partager l'Évangile. Seigneur Jésus, garde-nous et prends soin de nous et utilise-nous. Et merci pour ta parole et pour ta grâce envers nous. On t'aime, Jésus, et merci pour ton Église. Amen.